Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui nous arrivons à l'étude numéro 59. Pour commencer, quelque chose qui va nous aider de comprendre la suite. Puis-je prier le Notre Père? Je ne peux pas dire Notre, si je vis dans un compartiment spirituel étanche et si je crois qu'une place toute spéciale est réservée au ciel à ma propre confession. Je ne peux pas dire Père si je ne prouve pas ma filiation par ma vie quotidienne. Je ne peux pas dire qui est aux cieux, si je ne crois pas à une autre réalité que celle de ce monde perdu. Je ne peux pas dire que ton nom soit sanctifié, si, appelé par lui, je ne suis pas moi-même sanctifié. Je ne peux pas dire que ton règne vienne, si je ne fais pas tout ce qui est en mon pouvoir pour préparer sa venue. Je ne peux pas dire que ta volonté soit faite si je suis décidé à n'appliquer que la mienne. Je ne peux pas dire sur la terre comme au ciel si je ne me dévoue pas entièrement à son service, ici et maintenant. Je ne peux pas dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » si je vis uniquement sur le pain de hier, c'est-à-dire sur mes expériences passées. Je ne peux pas dire « Pardonne-nous nos offenses » comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, si même un seul de mes semblables est l'objet de ma rancune. Je ne peux pas dire « ne nous induis pas en tentation » si je me place délibérément dans une position où je puis être tenté et y reste volontairement. Je ne peux pas dire « délivre-nous du mal » si je ne veux pas accepter sa loi. Je puis peut-être dire, et non, je ne pense pas que je peux dire, car c'est à toi qu'appartient le royaume. Je ne peux pas le dire si je n'accorde pas au roi des rois la place qui lui convient dans mon cœur. Je ne peux pas dire « et la puissance » si j'ai peur des réactions des hommes ou de leur opprobre. Je ne peux pas dire « et la gloire » si je ne cherche que ma propre gloire. Je ne peux pas dire « dans tous les siècles, si mon horizon est limité par le temps. Je ne peux pas dire « Amen » si je n'ajoute pas « quel qu'en soit le prix », car dire cette prière honnêtement du fond de mon cœur me coûtera tout. Oui, donc, quel qu'en soit le prix, il faut pouvoir payer le prix. Chers frères et sœurs et chers amis, selon les sondages, il semblerait que nous les chrétiens devraient avoir honte, car les chrétiens qui prient pour le retour de Jésus-Christ serait, paraît-il, beaucoup moins nombreux que l'on a pensé ou supposé. Or, l'Église, dans son ensemble, a oublié que Jésus-Christ n'est pas seulement notre rédemption dans le passé, mais notre nourriture pour le présent, mais qu'il est également notre espérance pour l'avenir. La doctrine de la seconde venue de notre Seigneur est un article de foi pour chaque chrétien. Ce fut là l'enseignement précis de notre Seigneur lui-même, qu'il reviendrait dans la gloire. Les espérances et les désirs de l'Église primitive étaient centrés sur ce retour. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après cela le jugement, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché pour le salut pour ceux qui l'attendent. Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Prions donc de tout notre cœur pour tous ceux qui prêchent le message de l'Évangile en ce moment même et pour la direction du Saint-Esprit. Et rendons grâce pour la victoire de notre Sauveur sur le péché et sur la mort qui nous a rachetés de la mort éternelle et qui nous a rendus libres afin de servir et de glorifier notre Créateur, ainsi que pour la promesse que les morts en Christ ressusciteront, oui, avec des corps glorieux, et que ceux qui le cherchent seront rendus semblables à lui lorsque ils rencontreront leur Sauveur dans les nuées. Prions donc pour cela, ô Père Céleste. Oui, toi qui es en ton Fils Jésus-Christ, tu nous as donné une foi véritable et une espérance certaine. Aide-nous, nous t'en prions, à vivre comme ceux qui croient, à avoir confiance en la communion des saints, au pardon des péchés, et à la résurrection et à la vie éternelle, par l'amour de ton Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chers amis, nous sommes nombreux à avoir attendu longtemps le retour de notre Seigneur, et beaucoup parmi nous ont perdu des amis qui possédaient également cette espérance. Mais je crois maintenant que le retour de Christ est imminent. De nombreuses personnes assez ordinaires réalisent qu'il n'existe aucune solution, absolument aucune, au problème de ce monde actuel, et que celui-ci est en train de dériver d'un désastre à l'autre, et que chacun d'entre eux est à chaque fois plus important que le précédent. Quelqu'un à l'arrêt du bus m'a demandé l'autre jour si je ne croyais pas que la fin du monde était proche, et un après-midi de cette semaine, je faisais mes visites et quelqu'un qui n'a pas et qui ne va même jamais à l'église m'a dit exactement la même chose. Donc, cette idée n'était même pas exprimée, et je me rappelle bien, il y a de cela encore 30 ans, et les politiciens et les sociologues croyaient que tous les dilemmes humains pouvait être résolu par une meilleure éducation, la science et la technologie, mais à l'heure actuelle, la majorité des gens s'accordent pour dire que ces solutions n'ont pas marché du tout. Les hommes ont tenté de se gouverner eux-mêmes sans l'aide de Dieu et ils l'ont totalement écarté de leur vie. Par conséquent, notre monde est ruiné spirituellement et moralement. Il a épuisé le capital spirituel laissé par les siècles précédents. Et dans le passé, il y a toujours eu l'espoir que le balancier reviendrait en place. Mais désormais, oui, désormais, les choses sont allées beaucoup trop loin pour que cela se produise et seul. Une action de la part de Dieu peut rendre au monde la sécurité et la paix. Oui, ce même Jésus-Christ reviendra. Pour les premiers chrétiens, l'espoir du proche retour de Christ fixait leurs priorités. C'était le stimulant à la proclamation constante de la bonne nouvelle et à l'obéissance en se livrant à la prédication et à la guérison. Ce fut le catalyseur qui les maintient dans un état de bonne volonté, de grâce et d'attente. Il fut l'inspirateur de cette foi, de cette espérance et de cet amour qui les soudait en une communauté dynamique. Dans un article intitulé « La théologie de la sécurité », le journal de l'Église d'Angleterre du 3 juillet dernier consigne la question d'un ancien diplomate de la province de York la semaine dernière. Peut-il y avoir une contribution chrétienne à l'élaboration de mesures de confiance, demanda-t-il. Existe-t-il une théologie de la sécurité à une époque nucléaire? La réponse fut oui. C'était l'apparition de Jésus-Christ, car la venue de Christ, croyez-moi, elle est certaine. Et c'est notre unique espérance, a-t-il dit. Oui, il alla même plus loin en disant que la transfiguration de notre Seigneur avait été le modèle et le signe de la seconde venue. Donc, les saintes Écritures nous montrent la révélation des plans de Dieu est l'unique fondement de ce que la Bible elle-même appelle l'espérance bénie. Le récit de la transfiguration, ce récit-là se trouve en Saint Matthieu chapitre 17 versets 1 à 13, ainsi que dans Saint Marc chapitre 9 verset 1 de nouveau jusqu'au verset 13, et dans Saint Luc, chapitre 9, verset 27, jusqu'au verset 36. Et par l'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, également, au chapitre 1, verset 16, jusqu'au verset 21. Donc, notre Seigneur lui-même, il parle de la scène en disant « Il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. » Saint Matthieu, chapitre 16, verset 28. Dans n'importe quelle interprétation prophétique, certaines règles doivent être appliquées. Parmi elles, se trouve le fait qu'il existe trois lignes de prophétie à propos des trois catégories d'hommes, les juifs, les païens et l'Église de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 32. Pour la plupart des prophéties, il existe également un triple accomplissement. Nous avons l'accomplissement dans les prémices, la réalisation dans la continuité et un accomplissement dans la finalité. Par exemple, examinons Ésaïe chapitre 35. Par le contexte, l'on peut voir facilement qu'il fait référence au royaume futur du Messie. Mais il y a eu un accomplissement des prémices lorsque notre Seigneur guérit tous les aveugles, les paralytiques, les sourds et les muets, et qu'il ressuscita même les morts. À l'heure actuelle, nous voyons la même chose se produire dans les conséquences de l'Évangile sur les personnes spirituellement aveugles. Je dis bien spirituellement aveugles, spirituellement sourds et muettes, qui éclairent et qui sont éclairés, excusez-moi, par les Saintes Écritures, alléluia, et qui, appliquées par le Saint-Esprit, peuvent maintenant dire « Autrefois, j'étais aveugle, mais voici que maintenant je vois. » Tournons-nous alors vers le texte sacré qui parle de son retour en gloire avec ses anges, oui, et ceci pour rétribuer chaque homme selon ses œuvres. Saint Matthieu 16, verset 27. Il poursuit son récit en disant que certaines personnes qui étaient alors présentes ne mourraient pas tant qu'elles n'auraient pas vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Une note à propos du temps suit, et oui, car après 6 jours, ceci désigne le rapport entre la transfiguration et sa promesse. C'est donc un accomplissement dans les prémices. Pierre, Jacques et Jean furent amenés, souvenez-vous, à l'écart par le Seigneur Jésus-Christ sur une haute montagne. Nous avons là la première annonce de ce qui est appelé habituellement l'enlèvement, l'ascension pour le rencontrer dans les airs, qui nous est prophétisé en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, et par l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 40. Ainsi que Saint Luc, chapitre 17, verset 34. Nous devons donc nous arrêter là et nous rappeler que désormais aucun événement relaté n'est prédit et puisse se produire avant le retour. Il peut donc venir à n'importe quel moment. S'il n'en était pas ainsi, notre Seigneur n'aurait pas pu réitérer l'ordre de veiller. Il a répété « veillez et priez » comme il l'a fait souvent lui-même. « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Lorsqu'il viendra à la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis à la rencontre du Seigneur en l'air et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Lorsque Pierre, Jacques et Jean se réveillèrent, ils découvrirent leur maître glorifié. Son visage brillait comme le soleil et ses vêtements étaient aussi blancs que la lumière. La gloire de son corps brillait au travers des vêtements qu'il portait. Nous avons une autre description de son apparition future, et ceci dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1, verset 13. Voilà comment nous le verrons lorsqu'il paraîtra, et tous les hommes le verront à son royaume, n'étant plus dans la faiblesse et dans l'affliction, car, oui, son visage, et rappelez-vous, son visage avait été déformé plus que celui de n'importe quel homme. Homme de douleur, nous est-il dit, et habitué à la souffrance. Donc, une fois encore, il s'appropriera la gloire qu'il avait avec le Père avant, oui, avant même que le monde fût. Il y aura donc une seule différence entre l'apôtre Pierre, Jacques et Jean, et nous, lorsque il apparaîtra, car nous serons alors manifestés dans la gloire. Lorsque il paraîtra, nous serons semblables à lui, selon la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel chapitre 12, verset 3. Cependant, notre Seigneur n'était pas seul. Il avait avec lui deux autres personnages, c'est Moïse ainsi que Élie. À notre époque, qui représentent-ils? Qui peuvent-ils bien représenter? Avant tout, ils représentent les saints de l'Ancien Testament, qui goûtent désormais à ce qu'ils ont attendu si longtemps. Mais maintenant, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire une patrie céleste. Et c'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux chapitre 11, verset 16. Pierre, Jacques et Jean représentent donc maintenant les saints du Nouveau Testament, sauvés également par Christ, mais sous une alliance différente. L'ancienne loi et les prophètes de l'Ancien Testament témoignaient également tous les deux de son retour. Du reste, une étude dans leur livre est beaucoup trop longue pour être mentionnée maintenant. Il y a une application supplémentaire. Moïse, après avoir conduit le peuple de Dieu hors d'Égypte, ne fut pas autorisé à entrer dans la terre promise, mais il mourut et il fut enterré par Dieu lui-même. Il représente donc ceux qui passent par la mort avant la seconde venue. Toutefois, Élie ne mourut pas du tout. Il fut enlevé au ciel par un tourbillon, un modèle de ceux d'entre nous qui seront encore vivants au moment de l'avènement de notre Seigneur. Vous vous rappellerez sans doute que celui-ci comprend deux étapes la venue de notre Seigneur pour son peuple et plus tard son retour avec, oui, avec son peuple, et ceci pour établir son royaume. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 52. Je répète, 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Ensuite, oui, ensuite, nous serons revêtus afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 2 Corinthiens 5, verset 4. Une autre application est souvent présentée de Pierre, Jacques et Jean. Il y a malheureusement ceux qui enseignent que tous ne seront pas enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs à sa venue pour son peuple. Entre autres, ceux qui ne parlent pas en langue. Ils enseignent que seuls ceux qui ont atteint un état de sanctification totale, parfaite, seront enlevés et les autres seront laissés en arrière pour traverser la grande tribulation. Bon, ceux qui enseignent cela ont oublié deux textes. Premièrement, 1 Corinthiens 15, verset 23, qui dit que ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur personnel, et lors de son avènement, ils feront partie de la première résurrection. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Et tous se lèvent ensemble pour le rencontrer. Deuxièmement, Saint Jean, il parle de ceux qui, face à lui, à Jésus-Christ, seront confus à sa venue. Ces personnes lui appartiendront puisqu'elles sont nées de nouveau, sauvées donc, comme le brigand sur la croix. Il n'a pas parlé en langue, si je me souviens bien. Et quels ont été, oui, ils ont tous été lavés dans son précieux sang. Je répète, ils ont tous été lavés dans son précieux sang, mais comme elle, ils n'ont pas été vigilants. Vigilants. Il faut être vigilant. Et la venue de Christ les a pris au dépourvu. Évitons donc cela, s'il vous plaît. Pierre, Jacques et Jean, eux, ils représentent ceux uniquement à ce moment-là, qui rejoignent ceux qui rencontrent le Seigneur, et les autres disciples au pied de la montagne représentent ceux qui, par incrédulité, bien que portant le nom de disciples, manquent tout simplement de puissance. Qu'en est-il des personnes de la foule? Cette foule réunie au pied de la montagne avec le garçon possédé d'un démon. Eh bien, ces personnes représentent les pays de la terre qui ne sont pas sauvés et qui sont liés, hélas, par Satan, dont l'unique espoir repose dans la venue de Christ pour régner. Les psaumes, ils abondent de cette idée-là. Voir par exemple, et vous pouvez les noter, les psaumes 72, donc 72, 96, 96, 97, 97, 98, 98 et 99, 99. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Chers amis, quelle vision glorieuse tout cela! C'est ainsi que l'a appelé notre Seigneur lui-même dans Saint Matthieu 17, verset 9. L'apôtre Pierre souhaita qu'elle dure pour toujours, ou tout du moins pour quelque temps. Il voulut même leur construire trois tentes. Une pour Jésus-Christ, une pour Moïse et une pour Élie. Mais alors qu'il parlait encore, tout à coup il a entendu la voix de Dieu qui lui disait: « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Un jour ce témoignage divin sera répété devant tout l'univers. Lisez et notez Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Là, il nous est dit: « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » On lui donna la domination, on lui donna la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera jamais, et son règne ne sera jamais détruit. À ce moment-là, Pierre, Jacques et Jean ne purent pas supporter une vision de la gloire divine, car une nuée le cacha à leurs yeux et ils furent remplis carrément d'une grande frayeur. Ce ne sera pas le cas au moment de l'accomplissement définitif et final. Ses serviteurs le serviront et ils verront sa face. Nous serons alors présentés à celui dont l'amour et la grâce infinie conçurent le plan de la rédemption humaine. Oui, celui qui nous a choisis de toute éternité pour partager sa gloire, parce que nous sommes ses enfants par adoption et aussi par sa grâce. L'amour parfait chassera alors la crainte, car la crainte est un tourment. Tout cela sera alors du passé. Telle était alors la vision et la réalité de celle-ci qui nous attend un jour, peut-être plus vite qu'on pense. Concluons donc par les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou encore au chant du coq, ou peut-être le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine, comme les vierges folles. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez, veillez et priez. Dans Saint Marc, chapitre 1, versets 14 et 15, nous voyons que Jésus-Christ est venu prêchant que le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est donc accompli. Je veux dire quelques mots encore à propos de la chronologie biblique. La Bible, comme vous le savez, est remplie de chiffres, Nous sommes invités à accorder de la considération à certains de ces chiffres, même si nous ne les comprenons pas tous. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre. Apocalypse 13, verset 18. Nous sommes donc confrontés à des périodes de durée différentes, toutes à l'exception de la forme combinée de 7. Le chiffre 7 de Daniel, chapitre 8, verset 14, 7 ou multiple de 7. Il y a la semaine des 7 jours, notre semaine ordinaire, 6 jours consacrés au travail, 1 pour le repos et l'adoration. Dieu insista lui-même, et cela dans la Genèse, chapitre 1, et le chapitre 2, et il l'observa lui-même, il observa le sabbat, et il a été fait ce sabbat pour l'homme. Il promit des bénédictions à tous ceux qui l'observeraient, Ésaïe 58, versets 13 et 14, et des malédictions pour ceux qui ne le respecteraient pas, Lévitique chapitre 26. Voyez-vous, aujourd'hui, le diable, comme il est rusé, tout doucement, il va éliminer, tout doucement, habilement, le dimanche, ou si vous voulez, le jour de repos, en faisant travailler les gens, en ouvrant tous les magasins, tout par intérêt, tout cela pour que le jour du repos soit pas respecté, puisse être éliminé. Après viendront les jours tels que Noël et Pâques. Il y a, voyez-vous, le sabbat des mois, 7 mois, entre la Pâque et le jour des expiations, Lévitique chapitre 23. Il y a le sabbat des années, égale 7 ans, donc 7 années, Lévitique, chapitre 25, verset 4. Et il y a le sabbat des années, 49 ans, suivi par la fête des trompettes du jubilé, la 50e année, Lévitique 25, verset 8. Pour finir, il y a la grande période des 7 temps, 2520 sabbats. C'est l'année prophétique ou civile de 360 jours multipliés par 7 et projetés sur l'échelle année-jour, selon Nombre, chapitre 14, verset 34, et Ézéchiel, chapitre 4, verset 6. Depuis l'époque d'Einstein, nos scientifiques deviennent de plus en plus perplexes à propos du temps. Ils viennent tout juste d'avoir une conférence à ce sujet, et je soupçonne qu'à la fin de celle-ci, ils étaient encore beaucoup plus désorientés qu'avant. Ils ont divisé ce qui ne peut pas l'être, car c'est ce que le mot « atome » signifie en grec, et ils ont découvert au moins 200 parties du noyau, certaines ayant vraiment des propriétés très curieuses. Ils nous affirment que le temps, l'espace, l'énergie et la masse sont tous interchangeables et qu'ils viennent tout juste de découvrir un trou énorme dans l'espace qui ne devrait pas s'y trouver. S'il s'était tourné, tant soit peu, vers la Bible, ils auraient découvert que Dieu n'est pas lié par le temps. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8. Ils auraient appris que les choses qui sont visibles ne sont pas constitués des choses qui apparaissent, ou comme une autre version traduit tellement bien, Hébreux chapitre 11 verset 3, ce qui est visible est fait de l'invisible. Dans l'évangile de Saint Jean, ils auraient découvert que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de l'espace. Il avait du reste vu Nathanaël sous le figuier et il avait guéri à distance le serviteur du centenier. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux chapitre 1 verset 3. Et aussi par lui, par Jésus-Christ, toutes choses subsistent. Colossiens 1 verset 17. Et c'est pour cette raison que notre connaissance est partielle, elle est limitée. Nous voyons d'une manière obscure à travers une glace comme au travers d'un miroir dans un mystère qui un jour disparaîtra. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8. En résumé, ils auraient appris la priorité et la prédominance de la révélation sur la raison. Oui, Dieu a ordonné le cours du temps sur la terre et il a créé une horloge astronomique, Genèse chapitre 1 verset 14 et le chapitre 15. Il a promis que tant que la terre subsistera, le jour et la nuit ne cesseront point, Genèse chapitre 8 verset 22. De plus, le temps existe dans le domaine spirituel et dans l'état éternel, car nous voyons dans la Bible qu'il est écrit au siècle des siècles. Et nous nous rappelons que les démons, ils ont dit à notre Seigneur, « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Saint Matthieu chapitre 8 verset 29. Nous devons alors faire confiance aux époques de l'Écriture sainte. Nous ne pouvons pas être plus sages que ce qui est écrit. Dieu seul les connaît. Actes chapitre 1 verset 7. Mais les paroles de notre Seigneur nous invitent à considérer une période accomplie de manière à avoir une indication de l'accomplissement des autres. Quel temps était accompli lorsque il est venu prêchant le royaume de Dieu? Daniel chapitre 9 nous donne la réponse. Daniel, il avait lu, ah oui, et comment ? Soigneusement, les saintes écritures. Et il avait découvert la prophétie de Jérémie qui désignait une période de 70 ans de captivité à Babylone. Jérémie 25, verset 11 et verset 12. Il était alors un homme déjà âgé, ayant été amené en captivité par Nebuchadnezzar environ en 606 avant Jésus-Christ. 2 ans avant que Nebuchadnezzar soit devenu le roi, donc en 604 avant Jésus-Christ. 70 ans s'étaient alors écoulés. Mais depuis, Nebuchadnezzar avait attaqué Juda à plusieurs reprises avant la captivité finale. À partir de quand les 70 ans commencent-ils? Il résolut de chercher Dieu dans la confession du péché personnel et national et dans la prière d'intercession. Aussi en réponse, l'ange Gabriel a été envoyé rapidement et il lui apporta la nouvelle révélation d'une période plus longue, pas 70 ans, mais 7 fois autant, donc 490 ans, ou si vous voulez 490 ans. ils ne devaient pas être tous consécutifs et ils s'étaient divisés en trois parties inégales. 7 fois 7, 62 fois 7 et un 7 final. Ces années coupées du fil du temps devaient être accomplies sur le peuple, la ville et le sanctuaire, et à la fin des 69 fois 7 années, le Messie devait apparaître et être rejeté. Au cours de la première période, les 7 semaines de Daniel, chapitre 9, verset 25, les rues et les murs seraient reconstruits même en période de trouble. Pour une description des faits, il faut voir les livres d'Esdras, de Néhémie, d'Agée et de Zacharie. Les 62 semaines suivantes verraient l'avènement du Messie, après qu'elles se soient écoulées, il serait donc retranché et il n'aurait pas de successeur. Ce fut donc au cours de la 20e année d'Artaxerxès que le décret prescrivant la restauration et la reconstruction de Jérusalem fut établi. J'ai peut-être estropié son nom, c'était Artaxerxès. C'est par lui que le décret qui était prescrit, et il avait prescrit la restauration et la reconstruction de Jérusalem. Néhémie chapitre 2 verset 1, je crois jusqu'au verset 8. Cette date est évidemment un peu incertaine. Les dates varient d'au moins d'une dizaine d'années. Ptolémée, je répète, Ptolémée, fameux astronome, nous donne une liste de tous les rois de Babylone, de Médie, de Perse et de Grèce, avec des événements astronomiques dont les dates peuvent être vérifiées. Mais toutes n'ont pas de tels événements, et dans d'autres cas, des parties d'une année sont comptées comme étant une année. Il y a plusieurs années, Sir Robert Anderson, dans son fameux livre « Le futur prince », résolut qu'à partir de sa date de la 20e année, 445 avant Jésus-Christ, le 14 mars, jusqu'au dimanche 6 avril, l'année 32 après Jésus-Christ fut une époque de 1073, ou si vous voulez, 173 880 jours. Je répète, 173 880 jours. Donc, 69 fois 360 fois 7. Mais cela fait que notre Seigneur aurait eu au moins 36 ans lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, car Hérode mourut en l'an 4 avant Jésus-Christ, et les deux années des mages auraient ramené sa naissance à l'an 6 avant Jésus-Christ. Je suppose, voyez-vous, que nous ne sommes pas censés de savoir tout, et ceci avec exactitude. Mais un avertissement complet de l'apparition du Messie a été donné, et il y a eu ceux qui attendirent la rédemption à Jérusalem, comme Simon et Anne. Chers amis, sommes-nous à l'heure actuelle dans une position similaire? La longueur de l'ère chrétienne n'est pas exactement spécifiée. Peut-être ce que nous pouvons dire de plus, c'est que notre Seigneur lui-même nous donne trois chapitres de signes et que ceux-ci sont en train de se réaliser tout autour de nous. Mais il nous faut prendre en compte les 7 dernières semaines. Quand est-il probable qu'elles commencent? Cette période commencera lorsque un prince romain viendra et qu'il conclura une alliance avec Israël au cours de laquelle le temple à Jérusalem sera reconstruit. Jérusalem est une fois de plus sous le contrôle d'Israël après quelque 2500 ans. Une réconciliation totale pour le péché a été faite et une justice éternelle nous a été offerte en Christ. Une seule chose demeure pourtant, l'onction du Saint des Saints à Jérusalem et sur l'ancien site. Voici, est-il dit, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. À nouveau, il est spécifié, veiller et prier. Selon Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 à 23, nous voyons des temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur, des temps de rétablissement de toutes les choses que Dieu a promises. Les temps de rafraîchissement pourrait très bien être un réveil spirituel avant que le Seigneur revienne. En ce moment, il y a plusieurs organisations qui préparent une période d'évangélisation sous différentes formes, que ce soit par la radio, par la télévision ou par des évangélisations de masse ou encore par des CD. Tous ces efforts sont avec la bénédiction de Dieu et pourraient très bien nous conduire au dernier grand réveil que beaucoup de personnes espèrent, qui inaugurera au jour de Christ un rafraîchissement venant du Seigneur. Le mot grec utilisé signifie un rafraîchissement provenant d'un courant d'air frais. Le mot grec pour rétablissement a des significations diverses. Il fut utilisé pour parler du soleil, de la lune et des planètes revenant, tenez-vous bien, qui vont revenir à leur position d'origine dans le ciel. Actes chapitre 1 verset 6, le seul autre usage qu'il en est fait dans l'Écriture sainte parle du rétablissement d'Israël. Il n'inclut pas le rétablissement des anges déchus, ni des impies qui sont morts. Tous les prophètes de l'Ancien Testament parlent de ces moments glorieux, comme nous le dit saint Pierre. Examinons un passage extrait de Michée, chapitre 4, en utilisant les premiers versets comme une suite de titres et comparons l'Écriture sainte à l'Écriture sainte. Michée, chapitre 4, verset 1, « Dans les derniers jours, nous est-il dit. » Et saint Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous dit que nous sommes dans les derniers temps, un fait qu'il souligne davantage dans sa seconde épître, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 3. Mais il existe une différence entre les derniers jours pour l'Église de Dieu et les derniers jours pour Israël. En ce qui nous concerne, nous qui appartenons à l'Église du premier-né inscrit dans le ciel, nous sommes un peuple particulier, spécial, une sorte de prémisse des créatures de Dieu, comme nous le dit Jacques. Et dans sa première épître, Pierre écrit trois choses à notre sujet. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Gloire à Dieu. Selon la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Donc le prix d'une rançon a été payé en totalité. Alléluia. Nous avons été régénérés par la parole de Dieu. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, et édifié pour former une maison spirituelle. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Des pierres, les unes après les autres, ont été posées sur le fondement. La pierre vivante, qui n'est pas l'apôtre Pierre, comme il nous le fait du reste comprendre très soigneusement, mais uniquement sur Christ. C'est ça, la pierre vivante, sur Christ lui-même. Il fut méprisé, il fut considéré comme ayant peu de valeur par les hommes, nous dit l'apôtre Pierre à nouveau, mais aux yeux de Dieu, il est choisi et il est précieux. Vous est-il à vous aussi, chers amis, très très précieux? Pour vous qui croyez, il est tout ce qu'il y a de plus précieux. Pour nous, la véritable Église de Dieu, plus rien ne doit être accompli avant le retentissement de la trompette qui nous appellera à rejoindre le Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Veillez, nous est-il dit à nouveau, veillez, dit le Seigneur, car je viens comme un voleur. Mais pour Israël, il y a plusieurs déclarations prophétiques qui doivent s'accomplir avant que leur véritable Messie leur soit révélé. Premièrement, la reconstruction du temple à Jérusalem sur l'ancien site d'après Daniel chapitre 9. Deuxièmement, un temps d'angoisse pour Jacob, Jérémie chapitre 30 verset 7. Cela comprend une alliance de 7 années avec ce fameux faux Messie qui sera interrompu par lui. Au bout de 3 ans et demi, Hitler a fait ça souvent, ce qui ainsi sera le début de la grande tribulation. À cette étape des 3 ans et demi, plusieurs événements sembleront se produire. À ce moment-là, l'archange Michel et ses anges jettent le diable du ciel. Apocalypse chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 12. Hein? Apocalypse chapitre 12. Qui descend donc, hein, notre ennemi, qui descend sur terre et qui établit la dernière forme de l'Empire romain sous le règne de la bête, qui durera 3 ans et demi, ou si vous voulez, 42 mois. Apocalypse chapitre 13. Au verset 3 de ce chapitre, la blessure mortelle de la bête. Il était blessé à mort, mais elle est tout à coup guérie par des moyens surnaturels, donc par des moyens diaboliques. Notez Ézéchiel, chapitre 28, verset 9. Lorsque le chef opposé à Dieu fut tué, Zacharie, chapitre 11, verset 17, précise l'endroit même où il était blessé. Oui, toutefois, il y a apparemment, on l'a dit, un miracle satanique, et il s'assoit une fois de plus sur son trône. Pour persécuter qui? Pour persécuter comme jamais ça n'a eu lieu tant que les humains ont existé, pour persécuter les saints, apposer sa marque 666 sur tous les hommes ce qui veut dire les hommes et les femmes, etc. Hein, on a bien compris. Et être adoré par tous ceux dont les noms ne sont pas dans le livre de vie. C'est le moment où les quatre cavaliers montent sur leurs chevaux. Premièrement, nous avons le cavalier antéchrist. Deuxièmement, nous avons la guerre. Troisièmement, nous avons la famine. Une famine comme jamais l'humanité a connue. Ces famines que nous entendons ces jours, c'est rien à côté. Et le quatrième cavalier sera la peste, mais une peste qui n'a rien à faire avec quelques milliers de morts, mais avec des centaines de milliers de morts. Il y a la persécution comme jamais l'humanité a connue. La mort et l'enfer suivent peu de temps après. À ce moment-là, il y aura aussi une guerre entre le roi du Nord et la Syrie, et le roi du Sud et l'Égypte. Ceci est écrit dans le livre de la vérité, Daniel chapitre 12, mais il faut commencer par Daniel au chapitre 10, chapitre 11 et le chapitre 12. Donc, ces événements se produiront à nouveau à la fin des temps, comme Daniel, chapitre 11, verset 36 à 45, nous le montre très précisément. Une fois de plus, Israël est entre les meules supérieures et inférieures. La guerre terrible, Gog, Magog, d'Ézéchiel 38 et 39, est également en train de se développer, et ceci très vite. Elle s'étendra à tous les pays de la terre, d'après Michée chapitre 4 verset 11 et Zacharie chapitre 14 verset 2. Ils se réuniront tous. Pourquoi? Certainement pas pour faire du bien, mais pour détruire Jérusalem et l'État israélite. Grâce à Dieu, ce sera là la fin de tous les problèmes pour Israël. Le grand Messie roi, avec tous ses saints, apparaîtra du ciel pour sauver et pour commencer l'œuvre du rétablissement. Amen. Et gloire soit rendue à Yahvé l'Éternel et à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le Messie. Chers amis, merci pour la patience, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, et je pense que vous comprenez que cette énorme série concernant la prière est capitale, importante, et elle continuera encore un bon moment avant de commencer après tout ce qui concerne la guérison. Mais avant de comprendre la guérison, il fallait que nous puissions comprendre l'importance de la prière. À bientôt à nouveau, mes très chers amis, et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.